Bonjour à toutes et tous. Donc je suis un rapporteur par défaut, puisque c'est Catherine Boineau qui devait faire la restitution, et Catherine Boineau de l'Université de Tours n'a pas pu être présente hier. Donc j'ai été chargé de faire ce travail que je n'ai pas fait sous forme de PowerPoint, de restitution de l'atelier numéro 2 sur la gestion de l'espèce. Je commencerai par un préambule atelier qu'a animé Patrick Martin, et nous avons bien sûr fait ce travail de restitution ensemble. Je commencerai par cette restitution par une analyse qui nous a frappé, Patrick et moi, d'Eric Vesport, généticien de l'Université d'Inverness en Écosse, qui a parlé dans son intervention du retour d'expérience sur la restauration des populations de saumon en Europe. Eric, et ça c'est absolument capital, a indiqué que pour réussir en matière de conservation, il fallait deux ingrédients essentiels. D'une part, de la bonne, de la très bonne science. Elle permet de comprendre, de répondre aux questions, d'en poser de nouvelles, de réajuster les orientations. La génétique, sa spécialité, en fait bien sûr partie. Mais Eric a ensuite dit qu'il fallait un autre ingrédient. La volonté politique et le soutien populaire. Cette mobilisation de la société, de ceux qui contribuent à la fabrique de la décision avec l'État, la mobilisation des acteurs qui habitent les territoires, la mobilisation des ONG aux côtés des scientifiques, à partir du travail des scientifiques, est essentielle. Merci à lui, merci à Eric de rappeler ces évidences. Dans un pays qui a encore trop tendance à faire de la science chimiquement pure, c'est un peu provocateur ce que je dis, chimiquement pure, de la politique chimiquement pure, du militantisme écologique chimiquement pur, souvent sans passerelle entre chaque catégorie. Chacun doit bien sûr être à sa place, mais sans l'un, sans l'autre, sans ces passerelles, nous n'arriverons pas à sauver le saumon. Et je crois qu'ici, sur la Loire et l'Allier, nous parvenons dans la difficulté, parce que cette articulation n'est pas encore du tout inscrite dans notre culture nationale, à démontrer la fécondité de cette approche. Ça, c'est le propos liminaire que nous avions envie de souligner avec Patrick. Ceci dit, l'atelier d'hier a commencé par une présentation de Guillaume Evano, généticien à l'INRA de Rennes, soulignant le caractère unique parmi les 5 populations de saumon françaises identifiées du saumon de l'Allier. Le travail de recherche récent qu'il a conduit montre que, même s'il y a une faible diversité génétique dans cette population, ce n'est pas dramatique. Cette diversité est stable dans le temps, et Guillaume en tire quelques conclusions. À partir de l'analyse génétique d'un échantillon de 90 poissons capturés à Vichy en 2012 et issus de la reproduction en 2008. D'une part, 40% des individus de retour de l'océan sont issus du CNSS. D'autre part, alors là c'est un peu compliqué, ça dépasse largement mes compétences, je l'ai écrit avec Patrick, il n'y a pas de déclin de la diversité génétique neutre. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais ça s'appelle comme ça. Mais par contre, une augmentation de la diversité génétique sous sélection. Une augmentation de la, donc en particulier des gènes de sensibilité aux maladies, ce qui est une bonne nouvelle. Deux hypothèses pour expliquer cela. Ou il y a une augmentation des pathogènes dans l'environnement du saumon, ou les précautions prises par le repeuplement ont conduit à une augmentation de cette variabilité. Autre conclusion, les performances des juvéniles à diverses conditions de stress sont comparables à celles de 3 autres rivières ateliers françaises, Loire en Normandie, le Scorff en Bretagne, le Saison dans les Pyrénées-Atlantiques. Guillaume a ensuite présenté le travail d'Étienne Prévost, qui n'a pas pu venir, de l'INRA également. Étienne qui a, lui, analysé la dynamique de population à partir de 35 années de données. Deux questions étaient posées. Le saumon de la Loire est-il en danger d'extinction à court terme? Et le repeuplement est-il nécessaire? Les premières conclusions montrent que si le repeuplement s'arrêtait, la population sauvage décroîtrait de façon constante pour atteindre en moyenne 260 poissons dans 20 ans. Le saumon ne disparaîtrait sans doute pas, mais ne dépasserait pas ce niveau de 260 poissons tant qu'un effort très important de restauration des habitats, ça rejoint le propos liminaire, d'amélioration des conditions de survie des juvéniles ne serait pas entrepris. L'étude de M. Prévost a souligné l'importance de tributaires comme la lagnon, la sioule, recommander d'utiliser des géniteurs sauvages pour le repeuplement, préconiser de relâcher des juvéniles au stade de l'alevin plutôt que des semoules. Dans la foulée, parce que c'est important, et Philippe Lounian nous a fait rire tout à l'heure, Philippe est venu nous faire saliver en évoquant la recette du saumon d'Alaska. Et je lui pose la question de savoir si ce fameux saumon d'Alaska, vous savez, j'appartiens à une grande ONG qui s'appelle le WWF, qui travaille sur les labels, est-il labellisé MSC ? Je suppose que oui. Ensuite, nous avons eu une présentation de Jörg Lange, biologiste, qui a parlé de l'impact de la température sur les migrations de saumon dans le Rhin, qui est un fleuve massivement aménagé, ça avait été présenté le matin, qui compte sur ses berges, et ça c'est très impressionnant, plusieurs dizaines d'énormes centrales thermiques, nucléaires ou au charbon, dont l'une fait 4000 MW de puissance installée sur les bords du Rhin. Et Jörg nous a expliqué que le réchauffement des eaux est vraiment un problème évidemment très important pour le saumon. Il a donné une image saisissante, les calories relâchées dans le fleuve pour refroidir les centrales suffiraient à chauffer tous les bâtiments d'Allemagne. Donc on voit bien que les barrages, la question des barrages qui nous préoccupe un peu, n'est pas, en tout cas sur le Rhin, le seul problème, ça va réjouir peut-être nos amis d'EDF, n'est pas le seul problème pour la migration des saumons. Sur les dernières décennies, sur le Rhin, l'augmentation moyenne de température sur le fleuve oscille entre 0,6 et 1,1 degré. La prolifération des corbicules, qui ne meurent que quand la température descend sous 2 degrés, est sans doute un indicateur du réchauffement des eaux. Le 9 août 2003, pendant la canicule, la température du Rhin est montée à 28,1 degrés. Jörg a confié en disant que, avec le changement climatique, si rien n'est fait, la température des eaux du Rhin pourrait s'élever de 2 à 4,5 degrés. Mais cependant, et ça c'est une bonne nouvelle pour Jörg, un tel risque n'est pas complètement rédhibitoire pour le saumon qui a montré une réelle plasticité face aux divers changements. Mais en biologiste averti, Jörg a naturellement recommandé, en fin de son intervention, l'arrêt, biologiste et un peu militant, l'arrêt des projets de nouvelles centrales au charbon, encore nombreuses en Allemagne. Nous avons eu ensuite une intervention d'Éric Vespor, qui a rappelé le potentiel d'adaptation du saumon, en expliquant que ce potentiel était... était très élevé, en soulignant que le génome du saumon est deux fois plus important que le génome de l'homme. Mais pour nous rappeler évidemment que les populations de saumon ont coévolué avec leur environnement, ce qui fait, et ça c'est toujours important à souligner, mais on commence à le savoir, que chaque rivière a un pool génétique unique. Eric a alors parlé de la maladaptation, que nous pourrions traduire par inaptitude à faire face au changement d'une population donnée. Elle a pour lui deux causes, un capital génétique insuffisant et un environnement dégradé. Eric a insisté là-dessus pour ce qui touche aux gènes. Nous ne savons pas en créer. Nous ne devons donc pas les perdre. Pour ce qui touche à l'environnement, relever les défis de sa dégradation n'est pas facile, on le sait tous. Mais il y a des moyens, notamment Eric et divers scientifiques ont créé un programme, SALARCS, Atlantic Salmon Adaptation Research Consortium, qui travaille sur les questions d'adaptation et de restauration sur des rivières pilotes, notamment une rivière irlandaise, la Bury School, ainsi que des rivières françaises, notamment les rivières Atelier, cité par Guillaume et Vanou. Il fait ce travail, Eric, en lien avec le CIEM, hein, le Conseil international pour l'exploitation de la mer, et le NINA, l'organisme norvégien qui s'occupe de nature. Eric a donné un exemple qui est très intéressant et vraiment porteur d'espoir sur cette stratégie consistant à préserver les gènes et à restaurer les milieux, le retour d'expérience sur la rivière Stjern au Danemark. C'est une rivière qui avait été complètement rectifiée pour l'agriculture dans les années 70-80, qui a été reméandrée dans les années 90. Limakoff a pas mal travaillé là-dessus. Donc sur cette rivière, restaurée et repeuplée dans les années 90 à partir d'un tout petit noyau de géniteurs issus de la rivière, hein, la chance c'est qu'on avait conservé des géniteurs de la Stjern. Donc les travaux de restauration ont montré le potentiel réellement, la résilience de cette espèce, le retour du saumon, puisqu'en 2012, 4000 adultes sont revenus sur une rivière qui n'avait quasiment plus de saumon. Yvan Turgeon, notre ami québécois, consultant pour le ministère de la Faune sauvage du Québec, a ensuite dressé un état rapide des lieux du saumon au Québec, en précisant bien que sont le Québec. Hein. Certains ont dit que le Québec, hier, le repas, c'était la France. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour le Québec, ce pays, et c'est un peu différent de la France, là, considère que le saumon est une ressource naturelle, une ressource renouvelable et une ressource exploitable. Le saumon, c'est une ressource. Le Québec compte 118 rivières à saumon, dont 65 qui traversent des territoires habités. Et comme beaucoup de pays, il a vu dans les années 70 l'effondrement de toutes les populations, une prise de conscience portée par deux hommes politiques québécois qui étaient aussi en même temps des pêcheurs. Visiblement, ça aide. Et ces hommes politiques ont contribué à construire un premier plan de pêche, de sauvegarde et de pêche édicté dans les années, lancé en 1984, qui a deux objectifs. Et on en revient à cette philosophie globale du Québec, assurer la conservation des populations, ça c'est une évidence, mais derrière, optimiser les ressources socio-économiques liées à la conservation. Et ça c'est sans doute un peu différent de ce qu'on fait chez nous. Au fil des ans, donc, les pêcheries commerciales ont été fermées. Ce qui a dit Yvan a été un choix douloureux après 400 ans d'exercice des pêcheries commerciales sur le Québec. La pêche de loisirs a été très solidement contingentée avec des droits d'accès réglementés. La mouche fouettée, alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, les pêcheurs s'y retrouveront, avec des étiquettes nominatives, pas plus de 7 prises par an par pêcheur, et déléguées. Et ça aussi, c'est une différence importante par rapport à la gestion chez nous. Les associations de pêcheurs locaux assurent la protection et la conservation des populations et le financement des mesures à prendre via des droits d'accès qu'ils perçoivent. Donc la pêche d'alimentation pour ce que les Québécois appellent les autochtones est-elle aussi contrôlée? Des seuils de conservation pour chaque rivière ont été établis, calculés sur la dépose de 1,72 par mètre carré. Et si ces seuils ne sont pas atteints, les populations sont soutenues artificiellement, ce qui concerne seulement 4 rivières sur toutes les rivières du Québec, des rivières sur lesquelles on trouve de la production d'hydroélectricité. Donc ce qu'il y a d'intéressant en conclusion, c'est que ces mesures ont permis d'arriver à une moyenne de capture annuelle de 6600 poissons, donc on remonte entre 2004 et 2012, qui ont généré 60 000 journées de pêche à 800 euros la journée. Yvan a fait l'effort de convertir les dollars en euros, soit 48 millions d'euros. 48 millions d'euros liés à la restauration des rivières à saumon. Concernant les conséquences du repeuplement, puisque c'est évidemment un aspect important de la gestion, historiquement pratiqué, a rappelé Yvan Turgeon, pendant des décennies sur plusieurs rivières, l'Etchemin, la Matane, la Saint-Jean, la York, l'impact sur les populations sauvages n'a pas, selon lui, été démontré. Et il a fini en disant que le modèle de gestion des rivières de l'avenir était sans doute la Cascapédia, sur laquelle en 2012, 1500 saumons sur 1509 capturés ont été remis à l'eau. Jörg Schneider, le cinquième intervenant biologiste à la Commission internationale pour la protection du Rhin, a présenté ensuite la question du repeuplement sur le Rhin, qui avait perdu tous ses saumons, vous le savez, dans les années 50. Le programme Saumon 2000, ensuite de l'accident de Sandoz en 1986, avait permis de relâcher 16 millions de juvéniles pendant une quinzaine d'années, issus de rivières, c'est un peu une liste à la Prévert, françaises, suédoises, irlandaises, russes, danoises, norvégiennes, et même espagnol, a-t-il dit. Il n'y a pas eu d'évaluation suite à ces premiers lâchés. Dieu, ce sont ses propres termes, hein, ou l'évolution étant chargée à l'époque du travail. Simplement, en 2003, la CIPR a décidé d'évaluer un peu de ses politiques de repeuplement, de revoir la stratégie autour de l'idée que les souches utilisées étaient sans doute mal adaptées, en particulier sur la question du moment de la reproduction. Spawning time. Là, Jörg a vraiment insisté sur cette idée qu'il est capital que les reproductions se fassent au bon moment. Les saumons russes, par exemple, pouvaient frayer en juillet, au mois de juillet, tout simplement parce que dans leur pays, ils feraient sans doute à ce moment-là, alors que les Espagnols le faisaient en février. Et donc, en conséquence, on avait des populations de jeunes saumons complètement inadaptées aux conditions écologiques du moment. Donc au final, après cette évaluation scientifique, de la bonne science, de la science solide, les tests ont conduit à privilégier pour la partie nord du Rhin les saumons de la rivière Etran en Suède, et pour la partie sud, ça nous intéresse, les saumons de l'Allier. Le bassin du Rhin étant très clairement divisé en deux, Aujourd'hui, New York pense qu'on commence à avoir de plus en plus, et ça c'est très encourageant, c'est le fruit de cette tentative de reconstruire une population, on commence à avoir de plus en plus de reproduction naturelle dans divers affluents du Rhin, il a cité la Zig, la Wupper, d'autres. Mais il est clair pour ce biologiste que la réintroduction de populations nécessite un temps d'adaptation au nouvel environnement et que personne, personne ne peut dire combien de temps va prendre ce processus. Il s'agit de recréer, en fait, de nouvelles populations. Ensuite, le docteur Martin Stickler, biologiste pour Statkraft, la compagnie électrique norvégienne, avec une puissance installée de 17 000 MW, ce qui n'est pas rien en hydroélectricité, a commencé par souligner, lui aussi, et ça, ce message revient tout le temps, que toutes les rivières sont différentes. Selon lui, les menaces les plus grandes en Norvège sont liées à l'aquaculture, ça fera plaisir à notre ami anglais, avec les poissons qui s'échappent et les poux de mer, et ainsi que les problèmes qui ont été un peu traités hier, des problèmes par Ori Vikfusson de pêche artisanale sur la rivière Tana, dans le Finnmark. Alors en Norvège, le repeuplement a débuté en 1986, suite au déclin des populations. On voit, on est toujours un peu sur les mêmes dates de prise de conscience dans l'ensemble des pays de répartition. Statkraft ayant, dès cette époque, commencé à gérer des banques de gènes. Cependant, l'entreprise n'est pas convaincue que du repeuplement, hein, avec des retours estimés entre 0,5 et 1% des poissons relâchés. Et elle joue donc davantage sur la restauration des habitats. Deux problèmes essentiels sont pour Statkraft posés, les barrières à la migration et donc les pertes de connectivité, et la question du succès de la reproduction et de la croissance des juvéniles. Le docteur Stickler a donné deux exemples sur une petite rivière qui s'appelle la Nidelva où un petit barrage de loisirs désastreux pour le saumon a été supprimé et une autre rivière, le Borossio ou la Barossio qui est barrée par un grand barrage de Statkraft qui a modifié le fonctionnement de son ouvrage pour éviter l'assèchement des nids suite aux éclusées avec là aussi un travail extrêmement précis qui a été fait. L'entreprise a comptabilisé 1069 nids sous le barrage et donc ces 1069 nids sous l'ouvrage doivent tous ne pas être exondés au moment des lâchers d'eau. Donc c'est vraiment de la science précise. Statkraft a remplacé 40% des lâchers d'eau froide néfastes aux juvéniles par une eau augmentée avec des systèmes de prise d'eau qu'on maîtrise bien maintenant avec une température supérieure de entre 2 et 4 degrés. Des petites modifications ont été apportées. Bref, l'entreprise essaye de construire une culture de réparation, de restauration. Et elle le fait en essayant de partager la connaissance avec tous les acteurs. Ça, c'est vraiment évidemment intéressant. Et Morgan nous a parlé de sa participation au titre de Statkraft à un réseau d'échange de savoir entre jeunes professionnels européens sur un site dont je vous donne le nom parce qu'il a beaucoup insisté là-dessus, qui s'appelle nowpass.eu. Nowpass, N-O-W, pass, 2-S. Pour finir, Gérard Bartels de l'administration du Baden-Württemberg qui travaille, lui, pour restaurer l'habitat des rivières dans cette partie en rive droite du Rhin, depuis l'Alpe jusqu'à la Kinzig, a parlé de... La Kinzig, c'est intéressant parce qu'elle se jette juste en aval du barrage de Strasbourg qui est encore infranchissable. Donc Gérard a présenté les efforts considérables entrepris par le Land pour reconstruire des populations de saumons. La plupart des rivières dans son land ont été massivement aménagées et rectifiées il y a plus de 100 ans. Et alors ça, pour nous, Français, c'est quand même assez surprenant parce qu'il y a 100 ans, les Allemands ont totalement, en tout cas les photos qu'il a montrées étaient spectaculaires, rectifié, c'est le terme, leurs rivières. Ils en ont fait des couloirs. Et donc, évidemment, ce processus qui était achevé il y a 100 ans n'a pas été formidable pour la biodiversité. Et l'enjeu, c'est de changer de culture. C'est évidemment extrêmement compliqué. Nous, on peut dire qu'en France, on n'a pas été aussi systématique dans l'aménagement des rivières que nos amis allemands. Et c'est ça qui est intéressant, malgré cette rectification, malgré cette artificialisation totale des milieux, dans les années 30, Gerhardt a souligné que 2500 saumons revenaient encore dans la Kinzig. Un potentiel d'adaptation de cette espèce, y compris un environnement très dégradé, qui est spectaculaire. Le Land a construit en une quinzaine d'années une soixantaine de dispositifs de franchissement sur différents barrages, en a enlevé certains, Sachant que M. Bartel a insisté sur la difficulté, le problème principal qui est celui de la difficulté de dévaluation des jeunes. Enfin, il a souligné qu'une installation de production pour le repeuplement vient d'être mise en œuvre sur le site de Volchal dans la forêt noire. Ils ont choisi, comme indiqué par un précédent orateur, évidemment, d'utiliser les populations de... la souche alliée, de privilégier la souche alliée. Et le but est de repeupler à hauteur de 500 000 à 1 million d'alevins chaque année. Donc voilà pour les exposés techniques. Je finirai par, parce que c'est important, et c'est bien dans l'esprit de ce colloque de S.S. Servant, deux interventions de Philippe Ouzoumian, qui a lu des textes d'Umberto Eco et de Bernard Pierre. La littérature, les textes, la poésie, c'est aussi important pour sauver le saumon. Ça fait partie de notre culture. Et enfin, dans les débats, certains ont insisté sur le fait qu'il fallait agir, et ne pas être trop prudent. Et ça, je crois que c'est important. On a besoin de la bonne science, mais on a besoin aussi d'un peu d'audace. Bernard Leroy, de l'AIDSA, a posé la question des modes d'organisation de la pêche récréationnelle. Grande question. Enfin, et WWF est sensible, des intervenants ont particulièrement insisté sur l'importance de l'effort de communication. Don Staniford, notre ami anglais, a parlé de l'importance des héros du saumon. Éric Vesport, encore lui, et je vais me conclure avec lui, a parlé du Festival du saumon qui va être organisé à Inverness l'été prochain, dont l'idée lui est venue suite à l'organisation du marathon du saumon organisé depuis 3 ans par le CNSS. Je vous remercie.